sais, c'est une très belle imitation, très habile. Oh, non, le type qui a fait ça, c'est un artiste.
88.3.
Mais vous êtes par saint Olgas, je ne sais pas de quoi vous parlez à moi.
Écoute Radio Campus.
En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeute d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours des camps d'attente, Curie, au palais de la Sécurité.
De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer, partout où il se rend, l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
À bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Bonsoir à vous. Merci de votre présence à l'écoute de notre magazine d'infos tous les mardis de 19 à 20 heures. Ce mardi, nous parlons d'Europe. D'Europe d'après Covid, d'Europe en période de guerre, la guerre Russie-Ukraine, entendez ça, avec Raphaël Glucksmann, député européen venu à Orléans vendredi dernier pour une réunion publique sur ces sujets et présenter son dernier livre à la grande confrontation « Comment Poutine fait la guerre à nos démocraties » chez Alary Éditions. Il nous a donné une longue interview, nous l'entendrons dans la dernière partie d'émission. Juste avant lui, nous écouterons François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Les élus de la collectivité se retrouvent en session plénière jeudi prochain. Plusieurs sujets en débat, dont la gratuité des transports, Rémi, car et train, pour les jeunes de la région âgés de 15 à 20 ans. Les élus débattront également du plan régional de santé. François Bonneau nous parle de tout cela. Mais pour démarrer l'émission, vous le savez, Mourad Guichard, journaliste indépendant, est avec nous. Et aujourd'hui, depuis Rennes. Bonsoir Mourad. Est-ce que tu nous entends? Bonsoir Mourad. Mourad? Ah.
Un souci.
Ah si, Mourad nous entend. C'était une mauvaise manipulation de ma part. Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Hassan.
Oui, je disais que tu étais à Rennes.
À Rouen. Alors justement, puisque tu parlais d'Europe, je suis invité pour les rencontres européennes de la participation. Et donc j'interviens avec plusieurs parlementaires demain après-midi, en début d'après-midi, et j'assiste aux travaux le matin. Et c'est quelque chose qui dure donc sur 2 journées, qui est organisé par le groupe Lyotte, le fameux groupe des territoires qui avait déposé cette fameuse PPL demandant l'abrogation de la loi sur les retraites et l'allongement de la retraite à 64 ans.
Absolument.
Et qui avait été retoquée de manière absolument scandaleuse par Brune Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, sur ordre évidemment de l'exécutif. Et donc voilà, on s'est connus par ce biais-là. Et donc comme ils organisaient ces journées, qu'ils voulaient avoir un débat sur la question de la démocratie et des médias. Et étendre d'ailleurs aux réseaux sociaux, donc ils m'ont aimablement invité et j'ai évidemment répondu favorablement à cette invitation. Donc là, je suis dans la rue, quelque part dans le centre ancien de Rouen. Et voilà, donc il y a un petit peu de bruit derrière moi, mais j'essaye de me mettre le plus à l'abri possible.
Bien sûr. On aura des retours par écrit ou quelque part de cette rencontre ou pas?
Je pense parce que le responsable de la communication du groupe Liotte à l'Assemblée nationale n'est autre que Christophe Rossignol, oui, qui est par ailleurs ancien conseiller régional et responsable au conseil régional des Verts à l'époque. Alors je crois que c'est à l'époque de Sapin, si mes souvenirs sont bons, dans les années 2005. Ouais. Voilà, et donc que j'ai retrouvé par ce canal-là. Et donc je pense qu'évidemment ils ont tout intérêt à communiquer sur ce qui va ressortir de ces tables rondes et de ces rencontres.
Eh ben, on lira ça attentivement. Mais Mourad, nous parlons dans ta chronique aujourd'hui d'un article paru chez nos confrères de la République du Centre et qui laisse perplexe, le moins faible peut-être, plusieurs personnes qui suivent le dossier du passage du centre hospitalier régional d'Orléans en CHU, centre universitaire. Alors, cet article démarre comme ceci. C'est officiel. Le maire d'Orléans a eu la confirmation de la validation du passage de l'hôpital d'Orléans en centre hospitalier universitaire. La première ministre se déplacera dans le Loiret. En quoi il te gêne cet article ?
Alors, j'ai été interpellé par le spécialiste de la question, hein, celui qui suit ça et qui nous en avait fait part déjà à plusieurs reprises et qui nous avait donné des informations exclusives, à savoir Tahar Ben Shaban, qui n'est pas journaliste, mais qui est engagé en politique, mais qui a...
Il suit très ardemment ce dossier.
Il a le goût, la saveur et l'odeur de du journalisme. C'est en voyant un petit tweet que j'ai lu, parce que j'étais occupé à d'autres choses sur Lille, notamment. Mais j'ai lu, du coup, j'ai relu ce papier. Et dans ce papier, globalement, rien ne va. C'est-à-dire qu'effectivement, alors que tu as lu le démarrage.
Tout à fait.
Je vous invite à aller voir l'article sur Internet. On a effectivement tous les ingrédients qui laissent à penser, mais très clairement, très précisément, que Serge Gouard serait l'artisan de la création d'un CHU à Orléans. Alors que c'est rigoureusement l'inverse. C'est-à-dire qu'il a lancé, je le rappelle, quelques jours, voire quelques heures même, il a officialisé le lancement de l'école de Zagreb en partenariat avec l'université de médecine de Zagreb. Il a annoncé ça alors que quelques heures après, Castex, qui était à l'époque Premier ministre, Jean Castex, avait annoncé, après avoir reçu une délégation menée par François Bonneau, le président de région, annoncé la création d'un CHU. Enfin, pour certains, la création d'un CHU à Orléans, alors qu'il y en avait un jusqu'alors seulement à Tours. Et donc là, on a littéralement l'impression que c'est Grouard fébrile qui attend le coup de fil de la Première ministre, qui devrait lui annoncer à lui et à lui seul que c'est bon, que c'est OK, alors que, comme l'a souligné Tahar Ben Shaban, on le sait depuis 2022, que ça va être fait, donc il n'y a pas de surprise, c'est une fausse surprise, et ça tire vraiment la couverture vers lui, et tu l'as dit, hein. On ne peut pas, alors je sais qu'il n'aime pas les leçons de journalisme à la République du Centre. PQR, mon amour, ne supporte pas les leçons de journalisme, ils sont intouchables, ils ont pas le droit d'être repris sur quoi que ce soit, sauf que là, on ne peut pas annoncer que la Première Ministre se déplacera. On écrit simplement la Première Ministre qui a déjà fait faux bond à l'hôpital d'Orléans, qui devait venir en janvier, qui n'est pas venu. On doit simplement écrire devrait venir, tout simplement. On ne peut pas annoncer, et d'autant que le titre « Elisabeth Borne au CHU d'Orléans » peut être un point d'interrogation, mais là, ils annoncent qu'elle va venir. Qu'est-ce qu'ils en savent ? Rien du tout. Donc, non seulement elle vient, mais en plus, elle vient voir Serge Gouard, et c'est Serge Gouard qui est mis en vedette. Pas un mot sur Zagreb, pas un mot sur le travail de François Bonneau. Voilà, quoi. On se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur une possible dérive liée à des relations, peut-être des relations, peut-être une proximité un peu coupable entre la rédaction de la République du Centre et la municipalité, puisque là rien, temporellement, ne justifie le fait de produire aujourd'hui un article, enfin aujourd'hui, il y a quelques jours, mais de produire un article comme celui-ci, c'était exactement samedi, de produire un article comme celui-ci à la gloire de Serge Gouard, alors qu'il n'a non seulement rien à voir avec cette histoire de CHU, mais en plus de ça, il a créé, avec le succès très, très mitigé qu'on connaît, créé lui-même son école de Zagreb je crois que c'était 12 000 euros par an, même si derrière il y a des possibilités de bourse, mais enfin, n'empêche, 12 000 euros par an. Donc, non, je trouve que c'est pas d'une honnêteté, éclatante, et que ça vient ajouter de la confusion dans ce dossier qui déjà est assez confus, hein, pour le lecteur lambda. Alors, pardon, nous on est au fait de cette affaire parce qu'on l'a su depuis un petit moment. Enfin, c'est si quelqu'un effectivement découvre aujourd'hui ce papier, il va se dire bah tiens, waouh quoi. C'est grâce à Serge Grouard que nous avons un CHU et la première ministre en personne va se déplacer et l'appelle pour lui annoncer la bonne nouvelle et le féliciter. Alors tout a été acté déjà et que là on est dans la com. La com c'est normal. Hein. Il avait fait un tweet Serge Grouard il y a quelques jours pour annoncer cette bonne nouvelle, enfin, il a le droit de le faire, hein. C'est un communicant, c'est un politique, que la presse s'en fasse, non pas l'écho, mais le passe-place, ça devient plus gênant. Et je suis sincèrement désolé, Hassan, pour les coups de fil que tu recevras demain matin, mais c'est une réalité. C'est une réalité.
Non, mais pour être tout à fait complet sur la question, c'est j'ai regardé un peu les échanges sur Twitter là, avant de rentrer en studio. L'auteur de l'article vous dit qu'il s'agit de nuances en te répondant et en répondant tard, notamment. Et il dit une annonce de projet n'est pas une validation.
Bah non, c'est totalement faux. C'est-à-dire que en fait, depuis un an, on sait que c'est acté, c'est signé. C'est-à-dire que il y a le sceau du Premier ministre qui enclenche le processus. Et il suffit simplement d'interviewer ou d'interroger les gens de l'Université d'Orléans pour avoir la confirmation qu'effectivement c'est enclenché depuis très longtemps. On décide pas ça du jour au lendemain. C'était sur Parcoursup, pour la rentrée de septembre 2022, c'était déjà sur Parcoursup. Donc, on met pas sur Parcoursup un projet. Donc, ça, c'est une légèreté. On va dire que c'est une légèreté de langage qui cherche à dédouaner l'auteur de quelque chose qui est tout à fait discutable. Mais je suis sûr que ce papier a absolument plu à Serge Grouard et à son cabinet. Simplement, le lecteur se retrouve floué et se retrouve face à une information biaisée.
Il fallait le préciser absolument, ceci. Puisqu'on parle de journalisme, Mourad, je dis à nos auditeurs que ce n'était pas prévu dans les échanges qu'on devait avoir. Je voulais savoir ce que tu penses de l'arrivée à la tête du JDD. C'est vraiment l'info dans notre métier depuis qui fait bouger les choses. Alors, comment il s'appelle déjà le patron de Valeurs Actuelles que tu appelles toi Valeurs Médiévales, Geoffroy Lejeune,
qui arrive à la... Oui, Geoffroy Lejeune.
Mais qu'est-ce que tu en penses de ça et de la grève de nos confrères de la JDD?
Très honnêtement, là, d'abord, j'assure de toute ma solidarité, moi qui suis également engagé syndicalement, de toute ma solidarité vraiment avec les confrères du JDD. Le JDD, c'est pareil, on peut critiquer les JDD, mais comment on peut critiquer le Canard Enchaîné ou l'UMA? Le JDD a été souvent taxé de passe-plat. Ou de porte-voix du gouvernement macroniste, parce que chaque dimanche, on avait un ministre qui s'exprimait et qui donnait la parole divine sur ce qui allait advenir. Simplement, là, on n'est plus dans ce petit débat-là. Là, on est dans quelque chose d'extrêmement violent. J'ai lu tout à l'heure l'interview de Lagardère, alors je crois que c'était donné au Figaro, si mes souvenirs sont bons, où Lagardère explique que Lejeune est un jeune journaliste compétent,
talent,
brillant,
oui, absolument, oui.
Voilà, et qu'il faut s'adapter au temps présent. S'adapter au temps présent, ça veut dire que l'extrême droite étant, je traduis, hein, l'extrême droite étant au port du pouvoir, bah il faut contenter cet électorat potentiel et y aller. Il faut savoir que ce garçon, alors je vous invite vraiment à, si vous avez Twitter, aller voir les tweets des Sleeping Giants, GIANTS, donc qui font tout pour assécher tous les titres d'extrême droite de leur recette publicitaire et qui recensent régulièrement notamment les condamnations. Et quand Geoffroy Lejeune était rédacteur en chef de Valeurs Médiévales, il a le titre a été condamné pour incitation à la haine raciale, notamment vis-à-vis de et a perdu à chaque fois évidemment vis-à-vis des Roms, vis-à-vis de la députée Obono qui avait été grimée en esclave avec des chaînes autour du cou. Donc ce sont des gens haineux, racistes, ce sont des dangers publics, littéralement des dangers publics pour la cohésion nationale dans une période un petit peu compliquée. Et donc ces gens-là sont extrêmement dangereux. Que Geoffroy Lejeune, l'inconséquent Geoffroy Lejeune, le violent Geoffroy Lejeune, se retrouve patron d'une rédaction tenue par Bolloré, hein, il faut le rappeler quand même. Et donc qui montre que Bolloré, contrairement à ce que certains candides pensaient, à un réel schéma, un plan politique très clair, hein, puisque c'est lui qui a mis Zemmour en piste. Je trouve que après Europe 1, après les maisons d'édition, après, enfin, voilà, là, il est en train d'étendre complètement à fond perdu, puisque par exemple Europe 1 perd des auditeurs à chaque publication de médiamétrie. Donc, il est, je crois, Europe 1 est à 6% d'audimat à peu près. Mais il s'en fout. Ça crée un lieu où il peut embaucher déjà des chroniqueurs d'extrême droite comme Bokeh, là, le gars qui sont les recrutés au Québec, et puis des Sonia Mabrouk, enfin des gens qui viennent distiller tranquillement les racines chrétiennes de la France, enfin toute une série de choses, et donc de stigmatiser, de pointer très clairement la communauté musulmane française. Et là, on franchit un pas supplémentaire, puisque le JDD est a priori lu c'est pas un journal d'opinion, donc c'est un journal grand public. Et là, on va être confronté à quelque chose de très violent. Alors, sachant que je rappelle qu'il y avait eu, alors c'était ITélé à l'époque, quand Bolloré avait fait main basse en bande organisée sur ITélé, il avait essuyer une grève, comme il y a actuellement au JDD, sauf qu'il avait décidé. Alors, je rappelle que c'est notamment Laurence Ferrari qui avait refusé de faire grève et qui, évidemment, a été récompensé pour ses services, mais il avait dégagé tout le monde et imposé sa ligne avec CNews. Donc, voilà, je crains, malheureusement, que les confrères et les consoeurs du JDD subissent le même sort. C'est-à-dire qu'ils vont être virés. On va faire venir des gens comme la fameuse Charlotte Dornelas, hein, l'ancienne Jeanne d'Arc qu'on avait pointée du doigt.
Ouais. Voilà. J'allais te demander parce que voilà, pour donner une touche orléanaise à cette affaire.
Oui.
Je sais pas si tu avais vu le document où elle disait, mais avec consternation, Geoffroy Lejeune, jeté de valeurs actuelles, je ne peux plus y rester. Je ne peux plus y rester.
Oui, mais c'est préparé. Tout ça est préparé, scénarisé, organisé, et évidemment qu'elle va rejoindre Geoffroy Lejeune, c'était une évidence. Ouais. Alors, je peux me tromper, mais l'histoire, on verra si l'histoire me donne raison, mais évidemment qu'elle va rejoindre Geoffroy Lejeune, et que ce sera une caution supplémentaire de la droite extrême, de la droite catho-intégriste, dans un journal qui est, je le redis, un journal généraliste d'information. Et quoi qu'on en pense, hein, on est au-delà des avis. On n'est plus dans la... tu vois, tout à l'heure, je critiquais le papier de la République du Centre. Évidemment, à chaque fois que la République du Centre, par exemple, pour ne citer qu'elle, a eu des difficultés ou quand ils ont été inquiétés par la justice ou par la police, j'ai toujours pris fait et cause et écrit, hein, c'est vérifiable.
Bien sûr,
c'est écrit, absolument. Écrit. Donc voilà, il y a les discussions, il y a les critiques, les chamailleries qui doivent être légères, mais qui le sont pas parce que voilà, les gens le prennent pas toujours bien. Mais derrière, non, il y a l'essentiel. Et si demain la République du Centre tombait dans les mains de Bolloré, je serais le premier, évidemment, à soutenir les salariés et à m'en inquiéter très fortement. D'ailleurs, je dis ça en même temps que je vous dis ça, je me dis que peut-être la prochaine étape, ce sera ça, hein, ce sera d'investir de manière importante la presse quotidienne régionale, donc la presse de proximité. Mmh. Bah oui, parce que derrière, une fois que vous tenez les télévisions, une fois que vous tenez les principaux journaux, qu'est-ce qui reste, quoi? Il reste la PQR. Ouais. Et donc, c'est peut-être la prochaine cible du milliardaire Bolloré. Ouais.
Un dernier mot, une grande pensée vis-à-vis de nos confrères de la rédaction de Liberté Hebdo, hein, dans le Nord que tu quittes. Là.
Oui, que j'ai quitté parce que voilà, c'est tout est sur la place publique, hein, il n'y a pas de secret.
Oui.
Simplement, les actionnaires en assemblée générale ont découvert. Nous avons découvert un déficit cumulé insurmontable de plus de 300 000 euros. Et du coup, il a fallu prendre une décision rapide et radicale. Et malheureusement, la décision rapide et radicale, c'est de stopper les frais parce que c'est juste insurmontable. Il y a déjà plusieurs centaines de milliers d'euros qui avaient été investis. Les investisseurs n'ont plus les moyens de remettre propos. Et donc, c'est évidemment la mort dans l'âme qu'on a dû cesser quelques mois après le plan de reprise. Alors donc c'est pas du tout un échec du plan de reprise, mais c'est vraiment une problématique financière abyssale qui nous oblige à avoir pris collectivement, hein, cette décision. On va évidemment tout faire et j'y travaille jour et nuit pour retrouver quelque chose, un emploi pour les salariés qui sont dépossédés de leur outil de travail. Voilà. Alors on a en plus, et je termine là-dessus, eu à à batailler contre des gens, enfin des gens, une personne en particulier en interne, qui a profité du fait qu'on arrivait avec quelques moyens financiers pour essayer de se faire un peu d'argent de son côté, et qui du coup a envoyé des courriers machin, mais sauf qu'il l'a fait avec le soutien du SNJ CGT, dont je fais partie, hein.
Oui, bien sûr.
Et dont je réprouve évidemment le soutien et la méthode, et je trouve triste parce que c'est une règle à la CGT. On ne détruit pas évidemment l'outil de travail, l'outil de production, et sinon on perd les emplois. Et c'est exactement ce qui est arrivé, c'est que le SNJ CGT a soutenu des gens qui ont attaqué l'outil de production, l'outil de travail, et résultat des courses, ben même ces gens-là n'ont plus de travail et n'ont plus de revenus. D'accord. Et donc on va essayer de tout faire. On va pas essayer. On va tout faire pour faire en sorte que tous ces gens puissent retrouver quelque chose. Mais évidemment, qui me peine encore plus, et pour avoir écrit récemment sur Manouchian, c'est que ce journal est né en 43,
oui.
Sous l'occupation nazie, a été créé par des militants communistes qui, au risque de leur vie, hein, tout simplement, ont créé ce journal. Et voilà, on se dit que c'est 80 années après, c'est triste d'avoir à prendre ce genre de décision, mais malheureusement, économiquement, c'était pas viable.
Ah, grande pensée en tout cas pour les salariés de.
Oui, merci beaucoup à ça.
Et ben on se revoit ou on se parle mardi prochain, Mourad.
Ah oui, avec grand plaisir. Bah, je rentre du coup là, je suis donc à Rouen pour quelques jours. Je rentre sur Orléans ensuite, et puis ce sera avec grand plaisir que je serai en direct dans les studios.
On t'attend. Passe une belle soirée et à mardi prochain. On va écouter un peu de musique, tiens. Et puis dans un court instant, François Bonneau, président de la région Centre Val-de-Loire, nous parle de la prochaine session, c'est jeudi prochain. La superbe voix d'Ayo sur ce morceau et cet album, très très bel album qui s'appelle Ayo Blues, Maybe à l'instant, dans Un Bâton Rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Je crois que je n'ai pas mes jingles, comme d'habitude, j'allais dire. On va continuer. En tout cas, les élus de la région Centre-Val-de-Loire sont réunis en session plénière ordinaire jeudi prochain. Une session délocalisée à Anches, ville d'Eure-et-Loire, où la région a inauguré à la rentrée dernière un lycée du futur. D'après les termes même de l'exécutif régional, un établissement totalement éco-responsable. Anches accueille donc cette session du mois de juin. Elle sera beaucoup tournée vers les finances. Le rapport du compte administratif 2022 y sera présenté. Les élus échangeront également sur le plan régional de santé PRS 2023-2028, un plan entre la région et l'État qui ne satisfait pas totalement l'exécutif régional, vous allez l'entendre. Et enfin, les élus vont débattre de la gratuité des transports Rémi, car et train pour les jeunes de 15 à 25 ans les week-ends. François Bonneau, président de la région Centre Val-de-Loire.
Tous les jeunes de 15 à 25 ans, tous les jeunes de notre région, accès aux transports en commun, aux transports collectifs, que ce soit par la route avec les cars Rémi, que ce soit par le train avec l'ensemble du réseau, tous ces jeunes auront la gratuité le samedi et le dimanche. Oui, dans ce moment, ça me paraît absolument indispensable, pour deux raisons majeures. La première, c'est faire en sorte que ces jeunes prennent le réflexe du transport collectif à un moment où le transport individuel, le transport par voiture, constitue une source importante de la production de CO2. Il faut, toutes affaires cessantes, réduire la production de CO2, travailler à la décarbonation de nos vies, de nos économies, etc. Ça veut dire arrêter d'utiliser l'énergie fossile dans les véhicules individuels à chaque fois que c'est possible. Ça n'est pas toujours possible, il faut qu'il y ait une ligne de car, il faut qu'il y ait un train, etc. Mais c'est souvent possible. Donc il faut que ce réflexe soit pris par les jeunes et le plus vite possible. Et la meilleure incitation de leur donner ce réflexe, c'est de faire en sorte qu'ils puissent le faire sans bourse dédiée, en faisant en plus une économie sur les moyens financiers qui leur sont disponibles, qui leur sont alloués. Donc, installer un réflexe, quand on se déplace et qu'on a un transport collectif, on prend le transport collectif de manière prioritaire. Le deuxième élément, deuxième axe majeur, c'est la solidarité et l'aide au pouvoir d'achat. Honnêtement, 15-25, c'est l'âge sur le plan économique de beaucoup de fragilité. Le nombre d'étudiants, on a vu dans toutes les enquêtes qui sont menées, le nombre d'étudiants qui ont des conditions très dures de vie pour payer le loyer, pour manger, qui vont à l'épicerie solidaire, etc., etc. Il est très, très important. Le nombre de lycéens pour lesquels la vie est dure parce que les parents sont en fragilité économique, il est très important. Et je pense que y compris les jeunes salariés, on voit bien que c'est souvent des emplois qui ne sont pas assis, qui ne sont pas durables. Et donc, ce sont des jeunes qui sont en situation de précarité sociale. Et les jeunes paient un tribut assez lourd, en tant qu'ensemble dans la population, assez lourd à la précarité, à la fragilité sociale aujourd'hui. Donc, c'est une mesure d'ordre social, c'est une mesure de solidarité. Travailler pour le climat, travailler pour la solidarité. Première région à mettre en place cette gratuité. C'est une première étape de quelque chose que l'on veut sur la totalité de la semaine. C'est une première étape. Elle sera franchie le premier week-end de septembre, ici en Centre-Val-de-Loire.
Certains élus de votre opposition disent que plutôt que l'universalité de cette mesure, il fallait regarder le quotient familial.
Oh, c'était les mêmes qui, au moment de la gratuité des livres, il y a bien longtemps, il y a 25 ans exactement, c'était en 98, disaient c'est une mauvaise mesure parce que, etc., etc. Je dis que sur une situation comme celle-là, d'abord, globalement, les jeunes, en dehors de quelques favorisés, globalement, les jeunes sont dans une situation relativement précaire. Et dire ceux qui le sont moins, c'était beaucoup. D'autre part, comment l'établir ? Avant 18 ans, le foyer fiscal de la famille. Après 18 ans, la complexité, selon qu'ils sont apprentis, selon qu'ils sont étudiants, selon que les parents apportent ou n'apportent pas, selon qu'il y ait des jobs, etc. Ensuite, quand ils sont jeunes salariés, il aurait fallu une armada pour établir les droits, avec pour beaucoup des pièces justificatives qui ne sont pas encore produites. Donc on aurait créé vraiment une usine à gaz complètement explosive et pas forcément juste. Là, justement, on a voulu un principe d'universalité. C'est tous les jeunes, même ceux qui ont des moyens, qu'on incite à prendre le car, à prendre le train, parce que c'est comme ça qu'on devient citoyen dans un monde dans lequel la planète mérite vraiment d'être protégée.
Et on va débattre également du plan régional pour la santé. Vous comptez interpeller l'État qui n'est pas au rendez-vous de la politique santé dans les territoires.
Le PRS, le plan régional de santé numéro 3 qui nous est proposé par l'ARS, est un plan qui a connu des concertations, qui dit des choses intéressantes, voilà. Mais faut voir là où on est. On est à un moment dans cette région où on a 25 à 30% des gens qui n'ont pas de médecin référent et qui en cherchent. On est dans cette région à l'annonce de fermeture de maternité, etc. On est dans cette région à fermeture des urgences. Donc on a une situation qui est catastrophique. Et nous disons que ce qui nous est proposé par l'ARS, c'est un plan d'adaptation à une réalité difficile. Ça n'est pas le plan d'urgence dont on a besoin. Il faut impérativement qu'on change de braquet. Il faut vraiment qu'on explose tous ces quotas, tous ces trucs qui font qu'on peut s'installer là et pas à côté, etc. Partout, sur tous les territoires, il y a urgence à favoriser l'installation des médecins. On veut l'expérimentation, notamment de ce qu'on appelle les IPA, c'est-à-dire les infirmières en pratique avancée, de manière à ce que les médecins puissent se consacrer vraiment encore plus fortement à leur patientèle qui est la plus dans l'urgence. Tout ça n'est pas vraiment fléché. On veut que notre région, qui a une situation plus dégradée encore que le reste du territoire, bénéficie d'un plan d'urgence, bénéficie d'une attention particulière. On veut que dans cette région, j'ai vu que le gouvernement l'avait refusé, je ne comprends pas pourquoi, on veut que dans cette région, il puisse y avoir notamment des approches différenciées pour inciter les médecins à s'installer. Il y avait une proposition de loi transpartisane qui l'aurait permis. Elle a été repoussée par les parlementaires de la majorité. C'est vraiment dommage. Il faut vraiment qu'on invente demain. Faisons de cette crise la libération, l'occasion de la libération de toutes les énergies, toutes les créativités. Faisons en sorte que on ait du l'accompagnement aux tâches, faisons en sorte que on soit plus facilitant pour les médecins qui veulent nous rejoindre, et notamment quand on a des médecins hyper compétents qui veulent venir de l'étranger. Parfois c'est trop difficile. Faut entendre que nos concitoyens n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de ne pas avoir de médecin, ils n'en peuvent plus d'aller aux urgences et d'attendre, et parfois en vain parce qu'ils verront personne. Ils n'en peuvent plus, et il faut donc ce plan d'urgence et pas un plan d'adaptation.
Outre la gratuité des transports émis pour les jeunes le week-end, hein, jeunes de 15 à 25 ans, et le plan régional santé, les élus débattront également lors de la session plénière évidemment du compte administratif, je l'avais dit, mais également de la région mobilisée sur Ambition Forêt 2030. Ils appellent ça relever les défis de la filière bois, forêt-bois, dans le contexte de changement climatique. Et ils et elles parleront également de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est jeudi prochain donc à Anche, en Eure-et-Loir.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Raphaël Glucksmann était à Orléans, c'était vendredi dernier. Je vous disais en début d'émission, le député européen du parti Place Publique était venu pour une réunion publique autour de l'Europe et présenter son dernier livre, La Grande Confrontation. Et le titre exact, c'est La Grande Confrontation. Comment Poutine fait la guerre à nos démocraties. Raphaël Glucksmann présidait une commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne. Il présidait la désinformation, notamment des Russes. Il parle de cela dans son livre en dénonçant la naïveté des dirigeants européens sur la question, y compris la France. La France où Raphaël Glucksmann pense plus globalement, qu'on ne parle pas assez d'Europe. Je lui ai posé la question, d'ailleurs, et il me répond. Écoutez sa réponse.
Moi, je veux parler d'Europe partout, tout le temps, toujours. J'adore ce mandat de député européen. Je pense qu'en France, on ne parle pas assez de l'Europe. Et quand on parle de l'Europe, on en parle souvent trop avec un prisme de débat national. Or, en fait, c'est à l'échelle européenne qu'on prend toutes les décisions qui vont déterminer l'avenir de notre continent et donc de la France. C'est à l'échelle européenne qu'on décide si on peut ou pas imposer des règles aux multinationales. C'est à l'échelle européenne qu'on engage les grandes transformations écologiques qui vont permettre peut-être, je l'espère, de limiter l'effet de l'effondrement climatique. C'est à l'échelle européenne qu'on organise la résistance à Vladimir Poutine et à la guerre d'agression qu'il lance contre l'Ukraine. C'est à l'échelle européenne qu'on va décider d'une taxation minimale globale des grandes entreprises ou, on l'espère, et ça c'est ce qu'on porte, des grandes fortunes. Et donc, c'est à l'échelle européenne qu'on on peut reprendre le contrôle sur notre destin. Or, en France, il y a cette sensation de distance vis-à-vis de l'Europe. Et une des responsabilités, ben, c'est pas la seule, hein, il y a des médias comme vous, sauf pas vous, mais les médias, il y a aussi la responsabilité des élus européens qui vont pas aller assez discuter de ce que c'est que l'Europe. Moi, j'essaye depuis le début de mon mandat de faire partager les combats que je mène au Parlement européen à plein de jeunes, de les mobiliser, de faire en sorte qu'ils viennent en appui sur des législations que je propose, ou alors de trouver des débouchés législatifs sur des mobilisations qui existent dans la société. Et donc, je pense que le rôle d'un élu, c'est aussi d'être en interaction permanente, quoi. Enfin, il faut rendre des comptes. Et moi, je suis ravi de répondre à l'invitation du Parti Socialiste avec lequel on a fait la campagne de 2019 pour aller échanger avec les militants et avec les citoyens en général sur voilà, ce que c'est qu'un mandat européen, quel bilan on a au bout de 4 ans, quels combats ont été menés, là où on a réussi, là où on a échoué aussi. Parce que tout, c'est pas un chemin de rose hein, d'être élu. On peut aussi se taper des lobbies, on peut aussi se heurter à des murs. Mais moi, ce que je pense, c'est que plus il y a l'attention du public, plus le poids des lobbies diminue. Et c'est aussi la responsabilité des citoyens, justement, d'investir l'espace public pour faire la lumière, pour montrer que ça nous intéresse et donc pousser pour des projets qui peuvent heurter certains intérêts particuliers.
La réunion publique à Orléans avait pour titre générique « Après la pandémie face à l'Europe, conjuguons l'Europe au futur ». Que peut être l'Europe d'après Covid et l'Europe en guerre ? La réponse de Raphaël Glucksmann.
La première chose, c'est que la pandémie, ça a été un révélateur. C'est-à-dire, on s'est retrouvé dans une situation, quand même, faire l'effort de s'en souvenir. Parce que nous, on est un peu des poissons rouges, c'est-à-dire qu'on vit une crise, on se dit c'est la catastrophe, et puis ensuite on en vit une autre, et du coup on a déjà oublié celle d'avant. Mais on s'est retrouvé dans une situation où nos agents volaient des masques sur les tarmacs des aéroports. Enfin, il faut comprendre le sentiment d'humiliation ressenti par des gens qui pensent habiter une grande puissance, un pays riche, développé, et qui d'un coup se retrouvent dans une situation où partout en Europe, on est incapable de produire du Doliprane, incapable de produire des masques, incapable de produire du curare pour nos hôpitaux. Et en fait, ce que ça a révélé, c'est à quel point la globalisation et les délocalisations, le processus mais long, hein, sur plusieurs décennies, a complètement mis à nu l'Europe. Et qu'on est devenu un continent de pur consommateur. Et donc quand on ne peut plus recevoir les biens produits en Chine, eh bien, le résultat de ça, c'est qu'en fait, on ne sait plus rien faire. Donc la première vertu, entre guillemets, de cette crise extrêmement profonde, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire qu'en fait, non, alors, il va falloir changer quelque chose sur nos politiques commerciales, sur nos politiques industrielles, et redevenir producteur. Enfin, c'est ça l'enjeu essentiel du moment, c'est qu'on redevienne producteur. Producteur de biens, mais aussi producteur de sécurité, producteur de sens, et qu'on sorte de l'étau dans lequel on s'est enfermé, qui est un étau de consommateur. Enfin, en gros, on attend que les biens arrivent. Mais non, c'est pas comme ça. Enfin, un être libre, ça ne veut pas tout simplement être un consommateur. Et donc ça, c'est la première grande révélation de la pandémie. C'est-à-dire qu'il y a eu comme ça, je pense, chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français, un sentiment de blessure. Mais c'est vrai aussi chez les Italiens, c'est vrai chez les Allemands, c'est vrai chez les Tchèques, c'est vrai partout en Europe. On a pris conscience de ça. Et donc la conséquence, ça doit être de changer nos politiques pour pouvoir redevenir producteurs. La deuxième chose, c'est qu'on a pris conscience aussi de la solidarité qui était nécessaire entre pays européens. Et là-dessus, il y a eu quelque chose de bien, c'est la mutualisation des dettes, la capacité à emprunter de manière collective. Ça, c'est une vraie avancée de l'Europe. Moi, je suis dans un rapport très critique à la présidence de Macron, mais quand il fait des choses bien, je le dis aussi, enfin, je ne suis pas bien. Or, la mutualisation des dettes, c'était bien. Évidemment, c'est une avancée. Et puis, quand on est bien, je suis désolé, le fait que les pays pauvres européens ne s'effondrent pas parce que les pays les plus riches sont solidaires de leurs dettes, bah, c'est exactement ce qu'on prône à l'échelle du globe même. Donc on ne va pas être contre, au contraire, on va saluer l'avancée. Donc ça, c'est la prise de conscience qu'en fait, on est interdépendant et on a pu, là, avancer. Ensuite, c'est la nécessité de l'Europe de la santé. Et ça, on en est au tout début, c'est encore à l'état embryonnaire. Alors moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, malheureusement, hein, mais les habitudes sont tellement fortes, les gens sont amoureux de leurs meubles hein, en général dans la vie. Donc il n'y a que dans les crises qu'il y a des avancées qui s'annoncent. Et là, nous, on a vécu pendant notre mandat deux énormes crises, la pandémie et ensuite la guerre.
Et justement, la guerre.
Et la guerre, ça a complètement bouleversé l'Europe. Déjà, il faut noter que Au lendemain de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022, il y a eu le même sentiment de Tallinn en Estonie à Lisbonne au Portugal. Le même sentiment d'appartenir à l'Europe. Le même sentiment, mais viscéral, parce qu'on dit normalement, oui, vous savez, votre relation à l'Europe, c'est pas comme au drapeau français, la relation à l'Europe, elle n'est pas charnelle. Et là, on a eu un moment où, franchement, chez une très grande majorité des Européens, où qu'ils soient, il y a eu le sentiment d'appartenance charnelle, viscérale à l'Europe et le sentiment d'être attaqué.
À ceci près que, très vite, notamment les Polonais se sont mis à critiquer l'action du président Macron vis-à-vis de Poutine. Emmanuel Macron qui disait il faut continuer à parler à Poutine.
Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est d'abord ce sentiment-là, le sentiment d'appartenance à l'espace européen qui a été très fort et ressenti de manière très vive. Moi, ce que je reproche aux dirigeants français, par contre, vous avez vu, je ne suis pas capable de bien, je vous ai donné un bon point juste avant, mais là par contre, je vais y aller là-dessus, au président français ou d'ailleurs au chancelier allemand aussi, c'est de ne pas avoir construit sur ce sentiment-là. C'est d'avoir eu un discours politique et des actions extrêmement ambiguës. C'est d'un côté, oui, il faut être solidaire de l'Ukraine, de l'autre, non, il ne faut pas humilier la Russie, il faut continuer à parler à Poutine pendant qu'il rase Mariupol. Et là, on a perdu une occasion historique de cultiver ce sentiment d'appartenance à l'Union européenne, de montrer qu'on était unis dans la défense de l'Ukraine. Et ça, c'est ce sur quoi moi je veux parler et construire. Je pense qu'il y a une très grande majorité des Français qui comprennent aujourd'hui à quel point construire l'Europe de la défense, c'est fondamental, à quel point montrer que démocratie ne rime pas avec impuissance, c'est fondamental, de montrer qu'on est capable, nous, de résister à des régimes autoritaires de nature fasciste ou fascisante en tant qu'Européens et en tant que démocrates. Et là, il faut vraiment qu'on se pose tous la question, c'est-à-dire, il y a deux questions qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est, un, dans quelle situation on serait si les Ukrainiens n'avaient pas résisté, si Zelensky n'avait pas répondu à Biden quand il lui propose de l'exfiltrer, j'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin de munitions, si les plans de Poutine avaient réussi, c'est-à-dire qu'un régime impérialiste à nos frontières, triomphant et menant des offensives, cette fois-ci, contre des pays membres de l'Union ou de l'OTAN, donc on serait dans une situation sécuritaire impossible. Donc on doit aux Ukrainiens le fait d'être encore en paix, nous, en France. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on aurait fait en tant qu'Européens si ce n'était pas Biden qui était président des États-Unis, mais c'était Trump? Et ça, c'est une question vertigineuse, parce que la vérité, c'est qu'on aurait été incapable de résister, parce que comme sur la pandémie, la leçon, c'est qu'en fait, on n'est plus capable de produire des munitions, qu'on a complètement désarmé nos nations, et qu'on a délégué, et ça c'est une folie, on a délégué nos fonctions de défense et de sécurité à un acteur étranger, les États-Unis d'Amérique. Et donc tous les 4 ans en fait, des gens parfaitement intelligents, très développés, qui ont fait des grandes études et tout ça, se retrouvent à faire des nuits blanches tous les 4 ans pour savoir ce que vont voter les électeurs du Michigan et du Wisconsin. On n'a aucune idée des raisons pour lesquelles ils votent quoi que ce soit. Mais tous les 4 ans, on dépend en fait des électeurs du Michigan pour savoir si Vilnius, Prague, Varsovie, Berlin sont défendus ou sont pas défendus. Jamais. Parce qu'on a conscience du niveau de pathétique que ça représente. Donc moi, je suis pas du tout contre m'allier aux États-Unis, par exemple sur l'Ukraine. Il faut qu'on ait une stratégie commune, transatlantique, de soutien à la démocratie ukrainienne. Et par contre, je suis complètement contre le fait de dépendre totalement d'un acteur non européen pour savoir si l'Europe sera défendue. Je veux dire, il faut qu'on arrive à construire notre propre défense, qu'on arrive à construire notre propre industrie de défense, qu'on soit capable de produire des munitions ou de fournir des équipements à une nation européenne qui est en guerre sans dépendre à ce point des États-Unis. Et donc c'est un enjeu fondamental. Et finalement, ces deux crises, elles nous disent la même chose. Il faut qu'on devienne adulte en fait, on se comporte comme des ados. Et je rajoute à ces deux crises, une crise qui a irrigué l'ensemble de notre mandat, qui est la crise climatique, qui précédait ce mandat, mais qui est vraiment au cœur du mandat, et la crise climatique, la crise de la pandémie, ou la crise de la guerre, ces trois crises, elles exigent la même chose de nous, qu'on redevienne maître de notre destin. Et ça, c'est un projet qui est génial, et qui peut arriver que à l'échelle européenne. Vous n'allez pas redevenir maître de votre destin juste à l'échelle nationale. Vous n'allez pas changer les règles du commerce international juste à l'échelle de la France. Vous n'allez pas imposer des normes aux multinationales juste à l'échelle française. Et donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre, à partager, c'est le fait que c'est à l'échelle européenne que se décide notre avenir. Est-ce qu'on veut être, je sais pas, une sorte de musée où on se rappellera que jadis, il y a très longtemps, l'Europe, c'était vraiment la France des Lumières, machin, on pourrait même faire des activités un peu style Puy du Fou au Café de Flore à Paris pour des discussions entre intellectuels de gauche. Il y aura des dignitaires du Parti communiste chinois et des oligarques russes qui viendront payer pour assister à tout ça. Donc, est-ce qu'on veut être des marioles, quoi, en gros? Ou est-ce qu'on veut être des vrais acteurs de l'histoire et du monde? Et ça, je crois que chez une majorité de Français, il y a la volonté d'être acteur et le sentiment d'être dépossédé. Et c'est la même chose que sur l'abstention des jeunes. Il faut redonner aux citoyens la sensation qu'ils ont du contrôle sur leur destin. Et donc, ça passe par des réformes à l'échelle européenne et ça passe par le fait que chacun se munit de son arme, qui est son bulletin de vote, sa voix, son réseau social, son engagement. Et voilà, et moi je suis convaincu qu'il y a l'énergie pour ça dans notre pays.
Raphaël Glucksmann préside, je vous disais, au Parlement européen, une commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne, notamment la désinformation russe, celle de Vladimir Poutine notamment. Il travaille dessus depuis plusieurs années.
Vous savez, moi, pendant 3 ans, à la tête de la commission spéciale du Parlement européen sur les ingérences étrangères, j'ai disséqué des dizaines de campagnes de manipulation d'informations sur les réseaux sociaux, par exemple. Et en Russie, à Saint-Pétersbourg, il y a une ferme à trolls et à bots, donc à faux comptes et à comptes automatiques, qui s'appelle l'Internet Research Agency de M. Prigogine. M. Prigogine, c'est le même qui est aussi à la tête des milices Wagner qui ont rasé Bakhmout en Ukraine ou qui menacent les soldats français en Afrique au moment où on se parle. Et M. Prigogine, il a créé cette ferme à trolls qui s'est fait une spécialité d'intervenir dans nos débats publics. Et donc, ça se traduit comment? Ça se traduit par exemple aux États-Unis en 2016, dans les 5 semaines qui précèdent l'élection américaine, eh bien, cette armée va cibler les swing states, les États qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre, donc qui font l'élection américaine, et il y a 250 millions de messages qui sont envoyés en 5 semaines. On estime le nombre d'Américains qui ont été touchés par ces messages à 150 millions. Et c'est que des messages qui visent à discréditer le Parti démocrate, à discréditer Hillary Clinton, à faire la promotion de Trump et à répandre des fake news. Et donc, ça a un impact électoral immense. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désossé ces campagnes. Et j'ai essayé de comprendre quel était le but. Et par exemple, en Espagne, l'armée numérique de Poutine, elle va soutenir à la fois les indépendantistes catalans les plus radicaux et les ultranationalistes de Vox, qui sont les deux pôles les plus opposés du débat public. Et quel est leur but à ces soldats numériques de Poutine? Eh bien, c'est de faire monter les deux pôles les plus contradictoires, justement pour créer le chaos, pour montrer que la démocratie, c'est ingouvernable, que ça ne fonctionne pas, que donc il faut un appel à l'ordre. Parce que si vous avez le chaos, il faut l'appel à l'ordre, donc enfin, il faut voter facho. Et ça, ils reproduisent ça partout. Aux États-Unis, par exemple, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils convoquaient au même endroit des manifs Black Lives Matter et All Lives Matter pour que les deux camps opposés se rencontrent et se confrontent. En France, on a étudié par exemple comment des hashtags contre les violences policières étaient poussés et dans le même temps étaient poussés les comptes qui appelaient la police à tirer dans la foule au moment des gilets jaunes. Ils faisaient pousser la condamnation les condamnations les plus radicales de la police et les exhortations à ce que la police tire dans le tas. Et le but, c'est quoi? C'est de générer l'impression du chaos. C'est de montrer que, finalement, la démocratie, ça marche pas. Et qu'on polarise au maximum une société pour qu'à la fin, le désir d'ordre soit si fort qu'on aboutisse à voter pour le parti de l'ordre et pour le parti le plus autoritaire possible. Ces campagnes de désinformation, elles sont conjointes à des cyberattaques, par exemple, qu'on a désossées, désarticulées et disséquées. Ces cyberattaques, c'est pas un truc abstrait, c'est pas juste contre le Parlement européen ou l'Assemblée nationale, ce qui est arrivé, mais c'est par exemple contre les hôpitaux. Pendant la pandémie, vous aviez des hackers russes travaillant pour le GRU, donc les services secrets militaires de Vladimir Poutine, qui ont attaqué l'Agence européenne du médicament au moment où elle devait statuer sur les vaccins, qui ont attaqué les hôpitaux français. Mais par exemple, comme ça, ça a l'air abstrait quand je parle, mais nous, ce qu'on a vu, par exemple, l'hôpital de Corbeil-Essonne, à côté de Paris, pendant tout l'automne 2022, donc après la pandémie, mais pendant tout l'automne 2022, eh bien, les médecins n'avaient plus accès aux dossiers médicaux des patients. Donc en fait, c'est des ingérences qui perturbent notre existence quotidienne. Ces ingérences, ça prend aussi la forme de corruption purement basique, d'achat d'élites. Ça prend la forme d'un chancelier allemand qui part travailler pour Gazprom après avoir décidé de rendre son pays totalement dépendant du gaz, Monsieur Schröder. Ça prend la forme de dirigeants, mais ce n'est pas seulement propre des Russes d'ailleurs. Ça prend la forme de dirigeants français qui vont travailler pour les intérêts chinois.
Monsieur Raffarin, non ?
Ouais, Monsieur Raffarin, par exemple. Par exemple, ça prend aussi la forme d'investissement dans des infrastructures stratégiques. Bref, type nos ports qui sont rachetés ou la sécurité dans nos aéroports. Enfin, viens, nous, on découvre des choses complètement lunaires sur l'attitude d'élites qui ont laissé nos pays être des supermarchés. Et à un moment, en fait, il y a quelque chose au-dessus du supermarché qui s'appelle la sécurité, qui s'appelle la souveraineté, et il y a eu une faillite des États européens là-dessus et de l'Union européenne en général, et c'est ça qu'on a diagnostiqué. Et je pense qu'aujourd'hui on est dans un moment où il faut prendre conscience que, ben oui, on a des adversaires, on a des gens qui refusent, enfin des régimes qui refusent la démocratie, qui financent chez nous des mouvements politiques, et on a accepté ça. Il y a un moment où il faut quand même se rendre compte qu'il y a une internationale des nationalistes, une internationale de l'extrême droite, et que leur parrain, depuis 10 ans, est un homme qui s'essuie les pieds sur nos nations. Et donc il y a un paradoxe aussi à soulever quand même dans le débat public. Comment se fait-il que ceux qui nous donnent en permanence des leçons de patriotisme soient les premiers à se ranger derrière une tyrannie étrangère dont les principes et les intérêts sont hostiles à la nation française? Et ça, c'est une question qui n'a pas été assez soulevée, je trouve, et qui se retrouve en France, en Allemagne avec l'AFD, en Autriche avec le FPO, en Italie avec la Ligue du Nord. Et c'est en fait un groupement d'intérêts qui défend les ambitions géopolitiques de Vladimir Poutine depuis des années. Et donc, cette commission, en fait, elle a compilé tout ça et produit une vision pour des transformations des institutions.
Les jeunes ne votent pas beaucoup, vous le savez, et parfois il y a des raisons objectives à ça. Mais pour les européennes, ils ne se mobilisent pas non plus. J'ai demandé à Raphaël Glucksmann s'il avait une explication.
Moi, pendant 4 ans, j'ai construit des canaux pour justement leur parler. Sur les réseaux sociaux en particulier, sur Instagram, sur LinkedIn, sur... Et ce que j'ai essayé de faire depuis le début de mon mandat, et ça, sur plein d'occasions ça a marché, c'est de les mobiliser et de les rendre acteurs de mes combats. Quand on s'est mobilisé contre les multinationales qui exploitent par exemple des esclaves ouïghours dans leur chaîne de production, et il y a eu des centaines de milliers de jeunes français qui ont interpellé Adidas, Nike, Zara, Shein, toutes les grandes marques qui structurent leur quotidien, pour leur dire, mais attendez, changez la structure de votre production, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est d'être complice d'un crime contre l'humanité pour vous faire du fric. Et ça, nous, ça ne nous va pas, et ça fait pénétrer dans notre quotidien, dans notre armoire, des crimes contre l'humanité. Et donc, en mobilisant ces jeunes, on a obtenu des résultats. Par exemple, personne ne voulait entendre parler à l'échelle européenne de l'instrument commercial sur le bannissement des produits d'esclavage, que les Américains ont appelé import ban. Et bien, c'est parce que les jeunes français se sont mobilisés, c'est parce qu'ils ont interpellé les grandes marques, c'est parce qu'ils ont interpellé von der Leyen et Macron qu'à la fin, eh bien, von der Leyen, la présidente de la Commission, est venue devant le Parlement européen et nous a dit « Ok, on le fait ». Et donc là, on est en train de le négocier. Au moment où je viens ici, moi, je suis rapporteur, donc négociateur pour mon groupe sur l'instrument pour bannir les produits d'esclavage. Pour en gros, il y a des douaniers dans nos ports qui aillent saisir des cargos de Nike, de Zara ou de Shein et qui leur disent « Non, en fait, ça ne rentre pas ». Et bien, ça montre quoi ? Ça montre que les jeunes ont du pouvoir. Et je crois que dans l'abstention, il y a la sensation que finalement ça ne changera rien, qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on est impuissant. Et moi, ce que j'essaie de contrer, c'est justement cette petite voix qui est rentrée dans la tête de plein de jeunes, qui est de dire « mais de toute façon, moi je suis qui pour changer quoi que ce soit à quoi que ce soit ? C'est pas un bulletin de vote seulement, et le mien en particulier, qui va changer quelque chose. » Et ce que j'essaie de leur montrer, c'est que non seulement un bulletin de vote, ça peut changer quelque chose, mais que même un tag une interpellation sur un réseau social, ça peut changer quelque chose. Que le partage d'un petit carré bleu sur Instagram, comme ça, ça a l'air ridicule. Et bien en fait, s'il y a des millions de gens qui partagent ce petit carré bleu, ça change quelque chose. Donc si un vote seulement, ça change rien, une campagne de mobilisation, des centaines de milliers de jeunes qui font irruption sur la scène électorale, ça, ça change quelque chose.
Les prochaines européennes, c'est dans moins d'un an, en juin prochain exactement. Raphaël Glucksmann n'est pas favorable à ce que son parti Place Publique parte avec d'autres partis de la NUPES. Je lui ai demandé pourquoi.
Ce que je pense, c'est que cette élection, ce n'est pas une élection comme les autres. C'est une élection qui se fait sur fond de guerre en Europe. C'est une élection qui doit nous conduire à décider de ce que l'on veut pour l'Union européenne. Donc la question qui compte, c'est est-ce qu'on veut la même chose ? Et bien, moi, je peux vous dire, moi, je n'ai pas la même vision. Nous, à Place Publique, on n'a pas la même vision de ce que doit être l'Europe de la défense, de ce que doit être la relation avec la Russie, de ce que doit être la relation avec la Chine, que les insoumis ou que les communistes. Et donc, c'est impossible d'aller à une élection européenne avec des gens avec lesquels vous ne partagez pas l'essentiel de la question qui vous est posée. Et qui est, quelle Europe nous voulons ? C'est ça. Et donc, très clairement, le fond délimite le périmètre. Et donc, ça fait 4 ans maintenant au Parlement européen qu'on défend les mêmes choses avec les députés socialistes, avec le Parti socialiste avec qui on avait fait alliance en 2019. Et par ailleurs, on a plein de points communs avec les écologistes sur notre vision de l'Europe. La vérité, c'est qu'on n'a pas ces points communs avec M. Mélenchon ou avec les insoumis et les communistes. Donc, c'est de la clarté, c'est la vérité. Et c'est aussi prendre des électeurs pour des gens intelligents que de répondre à la question qui est posée. La question qui est posée aux élections européennes, c'est quelle Europe vous voulez ? Quelle Europe vous voulez pour défendre vos principes, vos intérêts, votre vision du monde, la survie de la planète ? C'est pas êtes-vous pour ou contre Macron, êtes-vous pour ou contre Marine Le Pen ? C'est pas ça la question qui est posée. C'est pas une élection purement nationale. Et c'est ce que j'aimerais moi marteler partout. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être ici pour parler d'Europe. Parce qu'en fait, on va parler d'Europe, et on va parler d'Europe, et on va parler
d'Europe. Raphaël Glucksmann à Orléans vendredi dernier à l'invitation du PS local et de Baptiste Chapuis, conseiller municipal et conseiller général.
Ça fait plusieurs temps qu'on voulait inviter Raphaël Glucksmann à Orléans, qui est député européen, dans lequel le Parti Socialiste a fait sa campagne en 2019. Et c'est vrai qu'il avait une actualité avec la sortie de son livre sur la grande confrontation et l'ingérence de Vladimir Poutine dans les élites européennes. Il y aura un temps d'échange et de débat sur c'est quoi le rôle de l'Europe aujourd'hui, c'est quoi l'ingérence russe, chinoise, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que député européen. Il va nous parler de ses pétitions sur la fast fashion, sur Shein, sur la question des interpellations sur les énergies fossiles. Enfin, voilà, on a la chance de l'avoir aujourd'hui, on est très fiers de l'accueillir à Orléans, et donc voilà, on a une belle séquence où on va parler d'Europe. Aujourd'hui, il est, je trouve, un des seuls hommes politiques, alors je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, qui arrive à parler à la jeunesse. C'est le seul responsable politique qui arrive à mobiliser des milliers de jeunes sur la situation des Ouïghours, à lutter contre la fast fashion, à les mobiliser très fortement, alors certes sur les réseaux sociaux, mais qui ont des impacts très concrets sur la législation européenne. Et je trouve qu'aujourd'hui, il avait sorti un livre là en 2021 sur les jeunes et l'avenir en politique, et je trouve qu'aujourd'hui, il sait leur parler, et je trouve qu'il arrive à mobiliser. Donc peut-être pas assez, mais je pense que sur cette élection européenne, en tout cas moi j'appelle à ce que le Parti Socialiste trouve des points d'accord avec la public et que Raphaël Glucksmann puisse emmener un collectif de gauche aux prochaines élections.
À bâton rompu pour ce 27 juin 2023, c'est fini maintenant. En attendant à Orléans, les amis de Raidon qui ne sont pas encore arrivés, mais on les espère, pour du reggae pendant 2 heures. Et puis à Tours, 21h, c'est du jazz. Nous allons terminer en musique avec, en vous parlant de copains. De temps en temps, je fais ça. Alors, des copains d'Angers. Vous savez qu'Angers, c'est ma deuxième, troisième ville préférée du monde. J'ai vécu quelques temps. J'ai rencontré à l'époque des jeunes gens qui ont créé un label qui s'appelle Mahoula Records et qui font du... alors, ce qu'ils appellent du calypso, de la musique des îles, mais Made in Loire. Ils ont proposé à d'autres amis de Zenzile, groupe en juin aussi, un groupe de dub français, de remixer l'album de Loire Vallée Calypso. Je vous conseille d'aller trouver ce qu'ils font, ces jeunes gens, les Loire Vallée Calypso. Donc, Zenzile remix l'album. Tinkle Belt, c'est avec ça qu'on va terminer l'émission. Mardi prochain, nous parlerons de culture, de proposition de culture sur Orléans avec une interview réalisée à la Ruche en Seine. C'est une salle à Orléans qui propose de belles choses et qui est menacée vraiment. Et écoutez cette émission, il y aura un appel à don également. Nous allons faire comme ça une série d'émissions sur des propositions culturelles à Orléans. Peut-être si on a un peu de chance et puis des amis, des bonnes âmes qui nous parlent de Tours. Je suis preneur. Hein, proposition de culture à Tours également. Voici. Voilà, Gentile, écoutez ça, c'est très très beau. L'album vient de sortir en numérique, vinyle, le vinyle sortira s'il y a beaucoup de ventes du numérique. Allez voir ça, hein, c'est sur Bandcamp. Ciao, ciao.